Actu SF, les podcasts.
Eh bien, bonjour à vous qui êtes bien courageux de venir nous retrouver à l'heure du déjeuner, sous la chaleur du Magic Mirror, du Deluxe. Non, c'est le salon perdu ici. On est au salon perdu et on va parler de Paris. Alors, le titre de la table ronde, évidemment, fait un clin d'œil à Hemingway. Paris est une fête. Livre qui, on le sait, a connu un nouveau succès récemment suite aux tragiques événements que la capitale a pu connaître. Et puis, vous voyez quand même qu'il y a un sous-titre. Et que ce titre, il est quand même beaucoup moins joyeux que derrière. On va avoir des choses très différentes. On va effectivement aller vers la dystopie. Avec Karim Berouka, ça sera une dystopie presque contemporaine, si j'ose dire. En tout cas, on sera très, très proche de nous. Pour Aliette de Baudard, vous découvrirez Paris vraiment transformé en univers de fantasy, ce qui est assez surprenant. Et vous verrez qu'elle elle nous propose une vision très particulière et très originale. Et puis avec Titania 3.0 et Pauline Pucciano, on ira dans le futur avec là aussi une vision de Paris très différente de celle que l'on peut connaître, qui colle un petit peu avec le pôle architecture qui a rejoint le salon. Là, on est presque dans une utopie urbaniste et on verra justement comment vous nous en parlerez. Karim, pour démarrer, est-ce que
Bonjour.
L'apocalypse, enfin le club des punks contre l'apocalypse zombie, je vais dire le titre dans le bon sens, ça sera mieux, est-ce que ça ne pouvait se passer qu'à Paris?
Non, ça aurait pu se passer n'importe où, je pense.
Alors pourquoi ce choix?
Mais parce que, juste pour dire, c'est que les trois bouquins que j'ai écrits, les trois romans, se passent en majorité à Paris, en fait. Parce que j'y habite, que je connais mieux les lieux que le fin fond du Kansas ou la Bretagne. Parce que c'est aussi une ville emblématique, on y retrouve facilement plein de choses que les gens peuvent identifier. Et que tant qu'à détruire des choses, autant détruire des choses qu'on connaît. Voilà.
Au moins, on est fixé d'emblée. Hein. On a déjà l'apocalypse zombie. On a bien compris que ça n'allait pas forcément être une partie de rigolade. Et pourtant, c'en est quand même un petit peu une.
Ça dépend pour qui. Les zombies, ils rigolent pas beaucoup dans le livre. Hein. Bon, c'est pas tellement le propre du zombie de rire. Donc.
Dans quel quartier vivent tes punks au départ? Est-ce que...
Alors, ils vivent en haut de Ménilmontant, c'est-à-dire au-dessus de Ménilmontant, dans un squat qui n'existe pas, mais qui était inspiré par un squat qui existait et qui n'existe plus parce qu'il a été détruit il y a très peu de temps. Où il y avait des concerts et qui était rue de Ménilmontant, voilà. Puis après, ils se déplacent joyeusement vers la Tour Eiffel. On va y revenir,
parce qu'il y a quelques lieux emblématiques de la capitale qui apparaissent.
C'est un guide de tourisme post-apocalyptique, en fait, voilà.
Oui, et des rencontres de passage, même.
Voilà.
Aliette de Baudard, alors vous, Paris est déjà bien, bien abîmé. Quand on entame votre cycle.
Je rejoins tout à fait Karim sur l'idée qu'il vaut mieux détruire des choses juste à côté de chez soi. C'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus facile en fait.
Alors le premier tome, puisque là sur la table on a le deuxième tome de ce cycle. Le premier tome c'est La chute de la maison aux flèches d'argent, hein, si je dis bien le titre. D'entrée, une scène d'ouverture qui se déroule dans le quartier des grands boulevards avec les grands magasins. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce Paris tel que vous l'avez imaginé, qui devient, je disais tout à l'heure, un véritable décor de fantaisie?
Oui, donc en fait l'idée dans l'univers que j'avais créé, c'est un Paris de la belle époque devenue pas très très belle en fait, puisque il y a eu une énorme guerre magique qui a eu lieu entre différentes factions magiques, donc qui sont les maisons et qui tenaient chacun un petit bout de Paris. Elles se regardaient un peu comme les grandes puissances se regardaient au début de la Première Guerre mondiale, donc c'est-à-dire un peu en chien de faïence, un peu en disant si tu bouges pas, je ne bouge pas, etc. Et puis un jour il y a eu un événement qui a mis le feu aux poudres. Et les maisons ont commencé à s'entretuer dans les rues de Paris. Donc, ce qui fait que quand le roman s'ouvre, en fait, les monuments sont dévastés, il y a de la pollution magique dans la Seine qui fait que la rivière est complètement noire. Et puis, bon, vaut mieux pas s'approcher trop de la rivière parce qu'il y a des trucs dans la rivière qui vous agrippent et qui vous entraînent au fond. Donc, les ponts deviennent un petit peu des endroits qu'on traverse en courant. Et donc certaines maisons, bah, la maison aux flèches d'argent qui est la maison éponyme du roman, est en plein milieu de l'île de la Cité, donc entourée de ponts, c'est bien, c'est vachement bien, c'est défensible, mais c'est pas hyper accessible du coup. Et j'avais cherché des visuels un petit peu marquants pour ouvrir le roman, dans lequel un ange déchu s'écrase quelque part au milieu de Paris et toutes les différentes factions magiques essayent de récupérer l'ange pour l'entraîner comme magicien chez eux. Et je dis, tiens, les grands magasins, c'est pas mal en fait. Et donc le dôme des Galeries Lafayette, sous lequel je venais juste de passer pour aller chercher quelque chose pour ma sœur, j'ai regardé le dôme, je me suis dit, ce serait pas mal si elle passait à travers, en fait. Et donc, j'ai ouvert la scène vraiment sur les grands magasins qui, depuis 40-50 ans, sont cette espèce de terrain miné dans lequel les gens s'aventurent avec précaution pour essayer de ramasser tout ce qu'ils peuvent de cette époque qui est complètement finalement passée, qui ne reviendra pas. Plein de choses qu'ils ne savent plus faire, plein de parfums, etc. Comme toutes les lignes de communication ont été coupées, les ingrédients pour faire ces parfums sont devenus hyper chers et c'est devenu un luxe inatteignable pour la plupart des gens qui farfouillent dans les ruines. Et donc, c'est une espèce de défi que se lancent les bandes, en fait, de rentrer dans les grands magasins, essayer de revenir avec quelque chose. Et une de ces bandes se retrouve au bon ou au mauvais endroit, ça dépend suivant le point de vue des personnages, au bon moment, et donc se retrouve embringuée bien malgré elle dans les histoires des maisons.
C'est terrifiant la vie d'écrivain, l'imaginaire est sans arrêt en action. Dès que vous passez quelque part, l'inspiration peut venir de n'importe quel endroit.
Alors en fait, originellement, j'avais vendu ça à mon agent comme de la bitlit, avec des maisons de magiciens et une fille qui donc venait de rejoindre la maison de magiciens en tant qu'étrangère et qui devait négocier dans un Paris contemporain quoi, du 21e siècle. J'ai envoyé les trois premiers chapitres à mon agent littéraire et mon agent m'a fait, écoute, faut qu'on parle. C'est très bien, hein, mais c'est clair que ton cœur n'y est pas du tout. Techniquement, c'est parfait, mais c'est super ennuyant. Et donc, il m'a dit, je sais que tu voulais écrire quelque chose qui se vende bien, qui soit super commercial. Je retire tout ce que j'ai dit sur les ventes. Essaye de t'amuser un peu. Il paraît que pour me divertir, en fait, des bonnes petites catastrophes à l'intérieur de villes et des destructions sélectives, ça marche très bien.
Alors, on a vu les deux qui cassent tout, on va voir celle qui construit un petit peu, parce que quand même, on va essayer de voir un Paris en meilleur état, avec Pauline pour Titania 3.0. Alors, un petit peu le même exercice, puisque il va falloir nous faire travailler un peu notre imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous planter un petit peu le décor, et puis après, on viendra un peu en détail sur votre vision de Paris, un Paris futuriste.
D'accord. Alors, le décor, évidemment, correspond aussi à la thématique du livre. On peut tout transformer dans ce livre. Les gens passent beaucoup de temps à faire de la construction personnelle, donc à se modifier. Et la ville subit un petit peu aussi ces modifications incessantes. Elle se transforme tout le temps. Et je me suis amusée en fait à métamorphoser Paris, à proposer un Paris futuriste avec des monuments qui changent d'affectation. Alors, vous dites utopiste ? Pas forcément, parce qu'il y a quand même quelque chose souvent d'un peu prostitué et d'un peu artificiel dans cette.
Je parlais vraiment au niveau architectural sur l'utopie.
Au niveau architectural, c'est quelques tours en plus. Ce sont des monuments remplacés par d'autres, comme l'hôtel de ville qui est remplacé par un monument que les Parisiens du futur appellent le vaisseau spatial. C'est le centre Georges Pompidou transformé en gigantesque mall. On a donc effectivement une présence assez forte dans le roman de cette architecture futuriste qui peut être un peu féerique grâce à la magie de la technologie. Il y a des hologrammes un peu partout, il y a des petits robots autonomes qui viennent agrémenter les monuments, les fontaines. Il y a dans le tome 2, dans le Père Lachaise, des hologrammes à l'effigie des défunts. Enfin, voilà, on a la technologie qui apporte un peu de féerie, en fait.
Et on verra que, justement, sous ce vernis un peu agréable à l'œil, en tout cas, hein, les choses le sont beaucoup, beaucoup moins derrière et que la vie dans ce Paris futuriste est loin d'être très agréable.
Hein.
On y reviendra. Karim Berouka, alors là, on a la version poche de l'apocalypse zombie, hein, du club des punks contre l'apocalypse zombie. Si je me souviens bien, sur la version grand format des éditions ActuSF, on voyait un de vos punks brandissant le drapeau anarchiste. Cette scène... C'est une des scènes les plus fabuleuses qui soit parce que c'est le rêve d'un anarchiste finalement qui se réalise.
Peut-être.
D'aller faire flotter le drapeau anarchiste sur le sommet de la tour Eiffel.
Bah oui, enfin c'est le rêve du personnage qui veut défier la société actuelle en montant sur le plus haut point de Paris, sur un des plus symboliques aussi, et d'aller y mettre le drapeau noir comme un pirate aurait hissé le drapeau noir sur un vaisseau. Donc il profite qu'il n'y ait plus rien et qu'il n'y ait plus personne pour l'en empêcher. Bon, c'est pas très réaliste, hein, parce que je pense pas que monter sur la tour Eiffel jusqu'à un certain point, il y a des escaliers, puis après, il y a une antenne de télé qui marchait peut-être plus à l'époque. Et aujourd'hui, je crois que c'est un peu dangereux. Mais voilà, il monte là-haut, il est très content, il fait flotter son drapeau noir, il n'y a plus personne dans Paris pour le voir, mais c'est pas grave, c'est le symbole qui compte.
Ils vivent dans leur coin finalement, ces punks. Ils vont presque découvrir par hasard qu'il se passe quelque chose dans Paris. Toute la première partie, en tout cas, c'est justement, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Il y a des zombies partout dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait ?
Où est-ce qu'on va trouver de la bière ?
C'est ça, la vraie question existentielle.
Bon, ils se baladent, hein. ils vont avoir un guide politique qui va les pousser à trouver un endroit un peu plus sympa qu'un squat pour s'isoler et pour reconstruire le monde. Donc j'utilise le truc est très drôle, hein, en fait, d'utiliser des parties d'une ville qu'on connaît et puis qui sont un peu connues historiquement pour les remettre en situation, pour prendre la tour Eiffel, pour mettre un drapeau, pour prendre le château de Vincennes et y faire une communauté. Alors voilà, si vous connaissez le coin, ça va vous parler. Oui, et puis en plus, on est baigné de romans anglo-saxons qui nous parlent de villes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît juste par la télé. Donc ça, c'est pas de l'exotisme parce que tout le monde a mis les pieds à Paris. Mais bon, voilà, ça fait un peu de régionalisme. Et puis ces gros monuments, on aime bien un peu leur tordre le cou. Il y avait un bouquin de, je crois que c'était Jean-Bernard Pouy, qui est aussi un bouquin post-apocalyptique qui s'appelle Spinoza en cul égal, qui est un excellent livre. Et je crois qu'à un moment, le héros pique un Canadair, les avions dont on se sert pour éteindre les forêts. Il le remplit de peinture, je ne sais plus si c'était rose ou verte, et il va au-dessus du Sacré-Cœur et balance toute la peinture sur le Sacré-Cœur, parce que le Sacré-Cœur, symboliquement, c'est l'expiation des crimes de la commune. On construit ça pour faire expier les méchants communards d'avoir voulu renverser le gouvernement. Donc c'est le même symbole, la tour Eiffel. Bon, là, ils avaient moins de moyens et moins de temps, donc je grimpe avec mon drapeau, je mets mon drapeau, puis après, je m'en vais dans les airs. Je suis libre, comme un oiseau.
Voilà, et après, c'est une espèce de traversée de Paris à l'époque des zombies. Hein.
Oui, oui, de toute façon, voilà, les bouquins, les films de zombies, c'est toujours une sorte de course-poursuite. Bon, là, ils essayent quand même de se poser pour construire quelque chose, mais bon, il se passe toujours des choses qui les envoient à gauche, à droite, donc ça me permet d'explorer le 12e et tous les quartiers où je traîne régulièrement.
Aliette de Baudard, vous l'avez dit, la maison aux flèches d'argent, puisqu'on va commencer par elle, qui est le cœur du premier tome de ce cycle, elle s'est installée très modestement d'une certaine manière dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après tout, elle était là, il fallait bien qu'elle serve.
Bah, oui, le chef de la maison aux flèches d'argent est quand même Lucifer, étoile du matin, donc c'est pas l'arrogance qui manque au personnage, donc bon, quitte à s'installer quelque part, là, c'est bien.
On parlait de revanche.
Ouais, voilà,
avec les anarchistes, ouais, là, c'est pareil.
Un petit peu, voilà, enfin, la version anglaise, en fait, avait carrément le trône qu'il avait installé à la place de l'hôtel.
C'est une version de Notre-Dame de Paris qui est particulièrement sinistre. C'est une espèce de carcasse un peu désincarnée qui n'a pas l'air franchement accueillante, si tant est qu'une cathédrale puisse être accueillante. Là aussi, voilà, il y a eu un travail pour construire ce décor si particulier qui va accueillir une bonne partie de l'action de ce roman.
Oui, en fait, il y a vraiment une fascination dans toute mon œuvre pour tout ce qui est la guerre, les ruines, les conséquences de la guerre, d'une part personnellement, hein, parce que ma famille est venue en France pendant la guerre du Vietnam. Et donc, c'est quelque chose qui a... c'est le genre de préoccupation auquel j'ai fait face depuis l'enfance. Et donc, quelque part, cette idée de comment reconstruire ou ne pas reconstruire, en l'occurrence, après la guerre, et est-ce qu'on récupère quelque chose qui ressemble à la société d'avant, c'est quelque chose que je trouve très intéressant thématiquement. Après, j'emprunte aussi pas mal au gothique, où vous avez les maisons très sinistres, enfin, hantées quasiment pour la plupart, et qui deviennent vraiment, bah, là, dans le cadre de la maison de la Fraîche d'Argent, c'est vraiment délibérément claustrophobique. C'est quelque chose dont vous avez du mal à sortir, quelque chose où dès que vous tournez la tête, il y a quelque chose qui se déplace et vous ne savez pas trop si vous l'avez imaginé ou pas. Et donc c'est vraiment, ça a vraiment été tout un travail, effectivement, de regarder le plan de l'île de la Cité, en 1890 à peu près, dans ces eaux-là, parce que c'est vrai que quand on regarde Paris au 19e siècle, il faut quand même voir si on est avant ou après Haussmann, ça change quand même pas mal de choses. Donc je me suis dit, bon, arbitrairement, je fixe un point en 1890-1900, et c'est sur la base de cette carte-là que je me place moi. Et ensuite, qu'est-ce que je peux détruire ? Donc j'ai littéralement j'ai des petits croquis avec, ce truc-là, ça manque, là, la travée-là, il n'y a plus la tour, il n'y a plus la tour non plus, ça sert à rien.
Façon bataille navale un peu
j'ai des schémas...
touchés,
ouais,
coulés.
C'est ça. Et donc c'est vrai que le but aussi, c'était vraiment d'installer cette ambiance assez oppressante, assez désagréable finalement, et qui est vécue de manière très différente par les différents personnages, parce que vous avez des personnages qui ont grandi dans cet univers et qui n'ont aucun problème à s'y adapter, et ça fait des années que c'est comme ça, donc ça leur paraît complètement normal. Vous avez des personnages qui ont vraiment du mal à se remettre, qui se souviennent de comment c'était avant, cette espèce... d'âge d'or mythique et qui ont vraiment du mal à l'abandonner. Et puis vous avez d'autres personnages qui leur font très froidement remarquer que l'âge d'or, soi-disant, de la belle époque mythique et tout ça, c'était beau pour 1% de la population et que le reste vivait dans la misère noire et était complètement exploité. Et que finalement, pour eux, ok, Paris est dévasté, mais finalement, le problème reste le même. Il reste toujours en bas de l'échelle et c'est vraiment se voiler la face que de dire que les choses ont changé.
Pauline Pucciano, derrière cette... skyline, presque dire, hein, de parisienne, puisqu'on a vraiment, enfin, en tout cas moi c'est la visualisation que je peux en avoir, mais c'est presque un Paris qui ferait penser à un New York doré, chromé un peu de partout.
Clinquant, hein. Même.
Oui, voilà, vraiment dans cet esprit-là. Et puis, quand on suit vos personnages, on découvre rapidement que l'envers du décor est quand même beaucoup moins agréable, et on va rejoindre le thème de cette table ronde, c'est qu'on est vraiment dans une dystopie. Puisqu'on est dans un monde, je crois que le terme c'est après la grande désétatisation.
C'est,
hein,
ça.
C'est ça.
On est dans un
merci
monde...
de mettre des mots compliqués comme ça. Pour les...
On est dans un monde ultra-libéral où il n'y a plus aucune régulation par l'État et où les grandes entreprises gouvernent de manière assumée et claire, y compris la justice, la police. En fait, tout le monde tourne autour du commerce. Donc, c'est vrai que cette féerie un peu clinquante les individus adhèrent parce qu'ils sont un peu aliénés par l'idée qu'ils vont se construire, qu'ils sont libres d'être qui ils veulent, d'acheter ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune limite en fait à leur possibilité de consommation. Et en même temps, c'est un mirage, évidemment, ça correspond à une perte de sens. Et le revers de la médaille, c'est évidemment l'exclusion. Paris n'est jamais très loin de Versailles. Et pour qu'il y ait la fête d'un côté, il faut qu'il y ait de l'exploitation de l'autre. Et c'est donc un Paris à deux vitesses, avec les nantis d'un côté, et puis ce que j'appelle dans le roman les HR, les hors-réseau, qui sont donc des gens complètement, qui vivent déconnectés, qui n'ont plus aucune identité informatique et qui vivent dans la rue et qui n'ont plus accès à aucune transaction, aucun moyen de paiement, aucune possibilité de se déplacer, de voyager, de louer quelque chose, etc. Donc effectivement, une dystopie, mais pas vraiment une dictature, une dystopie ultralibérale.
Votre personnage principal, enfin, l'un des personnages principaux, puisqu'il y a évidemment Titania qui donne son nom au titre, mais qui est... un personnage insaisissable, presque intangible. Le personnage que l'on suit, c'est le personnage de Yann, qui lui est un peu déclassé d'une certaine manière, un peu perdu. Les autres, d'ailleurs, personnages qu'il rencontre systématiquement, lui disent qu'il, voilà, qu'il ne fait pas partie de ce monde d'une certaine manière, hein, qu'il s'est arrêté deux siècles en arrière.
Oui.
Il y avait aussi cette volonté, voilà, de jouer sur... puisque on ne l'a peut-être même pas dit encore, mais on est sur un roman jeunesse. Hein. Voilà, de jouer aussi sur le décalage et sur, à travers Yann aussi, d'avoir quelques derniers repères qui puissent correspondre à notre époque.
Oui, ça m'intéressait en fait de comparer un peu les valeurs, en tout cas, qui demeurent, même si elles sont en danger, je pense, aujourd'hui, mais certaines valeurs qui demeurent. Et de les comparer aux nouvelles valeurs, celles du 22e siècle, où le narcissisme n'a plus de limite, où l'individualisme n'a plus de limite, où l'exploitation de l'homme par l'homme n'a plus de limite. Donc c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir un personnage en décalage avec ce monde.
Avec un flicage bienveillant. Alors, ça fait vraiment un oxymore, hein, on peut dire ça comme ça, mais c'est assez troublant, en particulier dans le début du premier tome, où il y a cette rencontre avec, je crois qu'il s'appelle Letourneau, hein, c'est ça ?
Oui,
qui est un policier qui sait tout sur les gens qu'il interroge absolument, mais qui leur parle avec une gentillesse, une douceur extrêmement menaçante,
oui,
mais sans avoir l'air d'y toucher.
Le modèle, c'est quand même le commercial. Voilà. La police fait partie de ce vaste ensemble de gens qui sont à la solde du profit, en fait. Et donc, la technique des commerciaux devient la technique générale de toutes les institutions.
Et donc, c'est attention, vous ne remplissez pas vos objectifs.
Voilà, c'est ça. C'est un management faussement doux.
Karim, dans cette odyssée parisienne du club des punks, alors ils partent donc du 12e arrondissement. Alors, nous sommes désolés, hein, si vous n'êtes pas forcément parisien ou fait de la géographie parisienne, ils vont pas aller forcément très en ligne droite, hein, par rapport au point de départ jusqu'au point d'arrivée.
Alors, à Paris, il y a des murs, donc les lignes droites, c'est un peu compliqué, tu vois.
Mais disons qu'ils vont faire un gros détour pour aller du 12e arrondissement jusqu'à Vincennes. Et sur leur chemin, on a parlé de la Tour Eiffel. Et puis, à deux pas de la Tour Eiffel, il y a un autre bâtiment qui occupe une place assez intéressante. J'ai mis le t-shirt qui va bien en plus. Parce que
c'est... Ah oui, oui, exact. Ah non, je pense
que... T'as vu comme je suis raccord ?
Qui est en bas,
c'est la maison de la radio.
La maison de la radio.
Qui est un bâtiment que finalement, on croise assez peu dans la littérature. Et toi, tu vas y mettre un joyeux bazar.
C'est l'endroit où on abreuve le peuple d'émissions culturellement excellentes, n'est-ce pas ? Puisque tu as travaillé à France Bleu.
C'est pour ça que j'y travaille plus, d'ailleurs.
C'est pour ça. Hein. c'est le moyen de diffusion qui leur reste. En gros, ils veulent passer la cassette d'une certaine chose qu'ils ont enregistrée. Donc, le meilleur moyen, c'est d'aller directement à la source. Enfin, bon, c'est pas très réaliste. Hein. Je pense pas que l'émetteur soit France Télévisions. Et qui est un bâtiment, c'est marrant, en fait, finalement, avec une sorte de grande entrée, des structures en verre.
C'est un bon labyrinthe, en plus.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, je suis passé 2-3 fois pour faire des émissions de télé. Donc, ça m'avait un peu amusé de me dire, oh là là, mettons des gens là-dedans paumés. Qui cherche la bonne salle pour appuyer sur le bon bouton pour diffuser la cassette qui, c'est pas une cassette, hein, la carte vidéo qu'ils auraient. Je pense que je vais faire plaisir à tous les gens de France Télévisions. Donc effectivement,
à deux en particulier, deux, je crois, ouais. Me souvenir. Ouais. Il y a deux frères qu'on croise.
Il y a des gens, oui, parce que bon, au moment de l'invasion zombie, il y avait 2-3 émissions en cours. Donc, au début, j'avais vu plein de personnages. Je voulais avoir une sorte de scène de gens célèbres zombifiés. Mais bon, c'est pas très drôle, les zombies, en fait. Ça fait pas grand-chose.
Sauf les frères Bogdanov.
Ah oui, mais oui. Voilà. ça t'a fait rire.
Ah oui, moi, j'ai sauvé. Très drôle. Ouais.
Non, mais...
Vous avez déjà une réputation d'extraterrestre. Ouais. Avec toi, il devait être des zombies. C'est... Voilà, ça leur va tout à fait bien.
Extraterrestre, hein. Au moins, ils sortent du lot. Mais c'est pas très dystopique, hein, un monde post-apocalyptique, c'est juste un monde qui n'existe plus. Donc on n'a plus de structure, on n'a plus de structure étatique ni sociale. Donc on essaie de reconstruire. Le but du bouquin aussi, c'était de montrer des survivants qui veulent reconstruire plutôt que de survivre. mais pas reconstruire une, enfin, le tissu social, parce que la ville, elle reste là, elle n'est pas détruite finalement, à part quelques trucs qui ont dû être cassés dans la panique. Mais les bâtiments restent. Et on n'est pas vraiment dans une dystopie. Je pense qu'il y a...
Ils sont quand même un peu les derniers remparts avant que...
Avant la barbarie. Oui. Avant
que ça devienne barbares. Un règne zombie global. Ce qui serait en soi déjà une question bizarre.
Oui, le zombie, il n'est pas fait pour durer. Hein. Il est pas... il faut qu'il disparaisse à un bout d'un moment. Ce qui est pas très réaliste dans les histoires de zombies, parce qu'on aime bien que ça dure. Même si le groupe fait 20 personnes, une fois qu'on en a tué 10, on en rajoute 10 pour la saison suivante. Parce que... Mais bon, bref, c'est un mort-vivant. Il va pourrir, il congèle l'hiver, il sèche l'été. Enfin, il a aucun but dans sa vie. Une fois qu'il aura mangé tous ses congénères. Mais bon, après, il faudra reconstruire. Voilà, mais bon.
Aliette de Bodard, on est donc dans ce premier tome sur l'île de la Cité, et puis déjà on voit les premiers prémices de ce qui sera très important dans le deuxième volet, et vous l'avez évoqué un petit peu, c'est la scène qui joue également un rôle très important dans votre cycle, et qui en plus va apporter autre chose sur le plan de l'imaginaire, puisque vous avez évoqué votre culture d'origine tout à l'heure, la scène va justement être le vecteur qui va amener... une culture asiatique dans ce Paris post-apocalyptique.
Oui, alors tout à fait. Alors je vais faire un mini spoiler quand même, parce que sinon ça va être vraiment difficile de discuter. Mais il y a donc un royaume de dragons, de dragons à la mode vietnamienne et donc pas occidentale, c'est-à-dire que c'est des créatures d'eau en fait. C'est des esprits de la pluie, de la mer, des rivières. Et donc j'avais une communauté d'immigrants vietnamiens par ailleurs dans le texte, je me suis dit bon, ce serait aussi intéressant qu'ils ramènent avec eux leurs croyances et leurs créatures. Et donc, particulièrement dans le deuxième tome, ça ouvre avec les grandes factions viennent de se rendre compte qu'il y a un royaume de dragons sous la Seine, et donc se joue quelque chose qu'on a vu se jouer à de nombreuses reprises au cours du XIXe siècle. Elles essayent de venir coloniser le royaume, et donc le coup d'envoi est une alliance diplomatique entre la maison Aubépine, qui est dans le bas du 16e arrondissement côté Auteuil, juste à côté de la Seine, ça tombe bien, et un prince du royaume dragon, donc une alliance qui devrait être scellée par le mariage, sachant qu'aucun des deux côtés n'est vraiment dupe, mais qu'il y a des luttes de pouvoir internes. Je me suis pas mal inspirée pour ça de l'histoire du Vietnam dans les années 1830 à 1860 à peu près, quand il y a eu, c'est passé des premiers contacts avec principalement des marchands et des missionnaires français, et qu'on en est arrivé, alors je n'ai plus la date exactement en tête, mais c'est 60-70, quelque chose comme ça, sous le Second Empire, vraiment à l'établissement de trois provinces différentes avec des statuts différents et un ordre colonial, donc le Tonkin, la Nam, la Cochinchine, qui est à nouveau divisée en trois, un pays qui finalement avait son identité propre et sa politique propre, sauf qu'évidemment, bon... Je voulais quand même être un petit peu optimiste, je voulais pas refaire le scénario de la colonisation, parce que j'avoue que je me suis pas mal documenté. Il y a eu un certain nombre de bouquins que j'ai eu envie de jeter par la fenêtre, parce que c'était très désagréable, et que bon, c'est vraiment une histoire où il n'y a pas de spoiler, hein, on sait vraiment comment ça va se terminer, mal. Donc je voulais aussi un petit peu quelque part refaire l'histoire dans le livre en disant que ça se passait de façon légèrement différente, et que donner une chance à mes dragons vietnamiens d'avoir leur propre façon de résister et finalement d'arriver à des solutions un petit peu surprenantes. J'aime bien la fin. Je ne veux pas spoiler, mais...
La maison Aubépine, c'est celle qui est sortie... Alors, gagnante, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est celle qui s'en est le mieux sortie après la guerre magique, qui a sans doute visiblement le mieux résisté, qui est en tout cas sur la pente ascendante à nouveau... Qui du coup se montre particulièrement arrogante et particulièrement imposante. On le voit déjà un petit peu dans le premier volet vis-à-vis de la maison des Flèches d'Argent. Et puis là, dans le deuxième, on voit véritablement comment ils sont en train d'essayer d'asseoir le pouvoir, leur volonté de domination sur l'ensemble des territoires finalement.
En fait, donc la maison Bépine, donc, est, je ne sais pas si elle est vraiment sortie indemne de la guerre, mais à peu près 20 ans avant le début du roman, il y a un type dans la maison Bépine qui s'appelle Asmodée, qui décide qu'il en a marre et qui va prendre le pouvoir. Et donc il n'a absolument aucun scrupule globalement. Par contre, il s'est très bien inspiré la loyauté de ses subordonnés. Et donc il va se quelque part il va amener un sang neuf quelque part, un regain d'ambition et un regain de pouvoir du côté de la maison quand il va en fait virer tout le bois mort, on va dire ça comme ça, de manière très désagréable, hein. Il y a beaucoup de personnages dans l'histoire aussi qui ont des souvenirs un peu traumatisants de cette période d'il y a 20 ans, mais la maison ressort complètement unie derrière lui et avec les dents qui raclent littéralement le parquet. Et d'autre part, c'est aussi un peu évoqué donc dans le tome 2, une des raisons pour lesquelles la maison Obikine est en très bonne position, c'est parce que ça fait des années qu'elle trafique secrètement avec le royaume dragon dont elle profite de la magie. Et en échange, pour le moment, de garder leur secret. Et au début du roman, vu qu'il n'y a plus de secret, c'est bon, j'ai envie de dire, il n'y a plus de décence. Les traités, oula, non, on ne va pas respecter, ça ne sert à rien. Vaguement inspiré quand même. Il y a des gens qui sont comme ça. J'ai quand même eu des gens qui sont venus me voir et me dire mais personne se comporterait comme ça dans des situations comme ça. Je fais, mais vous avez lu 10 livres à... genre toute l'histoire juste de la France, ça suffit, mais enfin ailleurs quoi. Donc c'est vrai que c'est des gens extrêmement désagréables, extrêmement ambitieux, mais c'est malheureusement des gens aussi qui sont assez communs. Et donc en phase 2, vous avez aussi quelque chose qui est très courant et qu'on voit dans la colonisation vietnamienne, c'est les gens qui ne savent pas s'organiser. Les gens qui en profitent pour essayer de régler leurs comptes. Donc typiquement, dans le royaume dragon, il y a une rébellion en cours et il y a quelqu'un qui trouve que c'est vachement bon moment pour essayer de renverser le gouvernement. Oui, ils ont des, on va dire, des griefs qui sont tout à fait légitimes. Après, et ça s'est vraiment passé comme ça au Vietnam aussi, après, c'est vrai que a posteriori, on se dit, oui, certes, mais ce serait peut-être le moment de retarder ça de 5 ou 6 ans, juste le temps qu'on se débarrasse des autres. Donc, c'était vraiment ça, l'idée derrière l'ascension de la maison Aubépine et d'avoir cette espèce de trame avec des gens qui sont très pressants, qui sont très désagréables et qui ont les moyens d'être très désagréables et qui essayent d'aller, de voir jusqu'où ils peuvent aller, finalement. Et qui, de toute façon, la seule façon de les arrêter, ça va être leur casser la figure, hein, faut bien être honnête, que ce soit de manière littérale ou métaphorique, hein, les humilier, ça marche aussi. Mais donc c'est quelque part, c'est venu de cette idée de si les choses avaient été un petit peu différentes, comment est-ce que vous arrêtez ce genre de personnes ? Donc là, je vous laisse lire le livre.
Pauline Pociano, on a évoqué un peu le décor de ce roman, de ce cycle Titania, hein, qui donc commence 3.0, 4.0. Et puis on n'a pas parlé justement de Titania pour le moment encore. On va sortir un tout petit peu du sujet purement parisien. Qui est Titania ? Et pourquoi est-elle aussi fascinante ?
Alors, c'est un personnage que j'ai vraiment construit autour des problématiques qu'elle suscite et qu'elle explore. C'est un personnage qui n'est pas stable dans son identité, qui se métamorphose sans cesse et qui utilise la construction personnelle pour changer d'identité constamment. Elle change d'apparence, elle change de nom, elle change de style de vie et elle fait d'elle-même et de sa vie sa propre œuvre. Donc c'est une forme de narcissisme poussé à l'extrême qui peut la rendre très antipathique. Et en même temps, on sent bien que c'est une forme de pathologie et qu'elle est très fragile et qu'il y a des raisons à ce comportement. Donc c'est une figure à la fois assez féerique, pour reprendre le nom de Titania, parce qu'elle utilise les artifices de la technologie pour se transformer sans cesse. C'est un personnage assez impérial par sa beauté, par sa froideur aussi, par son côté un peu souverain. Mais évidemment, c'est un personnage humain malgré tout et fragile.
Elle est, alors évidemment, c'est les archétypes romanesques, mais elle est finalement l'exact contraire de Yann, d'une certaine manière. Elle semble totalement libre dans ce monde où la liberté n'est plus qu'une apparence finalement, ou en tout cas presque une illusion.
C'est vrai, elle semble totalement libre, parce qu'elle elle s'adonne à cet empire sur soi qu'on propose aux gens, mais en même temps, cette liberté la pousse à s'autodétruire. Donc, c'est une liberté à double tranchant.
À côté de ça, on a donc ce personnage de Yann, et on imagine qu'il lui est obsédé véritablement par Titania, qui semble être... ça m'a fait penser, alors, puisque Yann est fan de films du XXe siècle, ça m'a fait penser un peu au personnage de James Stewart dans Vertigo, qui a un peu le même type d'obsession pour Kim Novak, qui apparaît et disparaît pratiquement sans arrêt.
Oui.
Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu ce côté-là dans la relation entre Yann et Titania.
Oui, c'est intéressant, effectivement. Il y a cette idée qu'elle disparaît tout le temps, ou qu'elle va disparaître, ou qu'elle risque de disparaître. Et c'est un motif, en fait, que j'ai continué dans le tome 2 aussi. Il y a un petit côté Orphée et Eurydice aussi. Elle disparaît tout le temps, et il essaye de la faire vivre avec quelques difficultés.
Et ce qui lui vaut pas mal de problèmes, mais ça, vous le découvrirez évidemment en lisant le roman. Karim Berouka, la petite balade de nos punks dans Paris continue. Et alors, moi, je me suis demandé, mais tiens, pourquoi ne vont-ils pas à l'Élysée ?
Dans le tome 2. non, ils vont casser les toilettes de l'Assemblée, il me semble, d'un moment. Ils y vont peut-être, hein, parce qu'après... Non, je sais pas. On pouvait.
C'est le parce qu'en fait finalement le...
C'est un peu trop
évident.
Un peu trop évident, je pense.
Parce qu'on
va
voir.
Il y a pas grand chose à faire en fait à l'Élysée, une fois que.
C'est le château de Vincennes qui va occuper une place importante, qui est finalement un centre de pouvoir aussi à Paris, même si ça remonte un peu plus loin en arrière. C'était aussi pour donner un peu un cachet particulier au niveau architectural.
Oui, pour faire un roman médiéval. Non, c'est parce que c'est un joli château. Enfin, joli, je sais pas. Oui, c'est un joli château. J'aime bien ce château. Qui a des grands murs. Je crois que c'est le plus grand château d'Europe, donc du monde.
Hein. Qui a un grand donjon.
Qui a un grand donjon qui a été refait récemment, qu'on peut aller visiter, qui est magnifique. Et surtout, c'est un château qui a été construit. C'était le château imprenable. En fait. Du coup, personne n'a jamais essayé de l'attaquer parce qu'il était tellement... Ça fait une sorte de grand rectangle et immense avec à l'intérieur ce donjon. Et... Bon, ça a été tout refait à la Renaissance. Ils ont cassé les tours, ils ont mis des trucs un peu rococo pour se faire plaisir. Mais dans l'idée de... Enfin, c'est dans le cadre du roman, comment se protéger plus contre des nuisibles qui veulent vous bouffer la cervelle, autant mettre des murs devant. Et le château de Vincennes s'y prêtait. Pas vraiment, parce qu'il y a toute l'aile sud qui est ouverte avec des arcades, mais bon, c'est pas grave, on a rangé ça dans le... Donc c'est bien, ça laisse une place immense pour faire des cultures, il y a des logements, il y a un donjon, ça a été utilisé comme casernement pendant très longtemps, il y a une église, parce que la Sainte-Chapelle qui est là, qui servait à des gens comme Saint-Louis. Et ce château n'a pas été trop habité, hein, finalement, il a surtout servi de prison, enfin le donjon a servi de prison pour des prisonniers de marque, mais il a été vite abandonné pour le... Je sais pas si c'est le Châtelet qui...
Oui, puis il y a eu la Bastille aussi après. Donc...
La Bastille, ouais, mais je sais pas si ça a été occupé.
Y avait un peu des prisons partout, hein, quand même.
Ah oui, non, mais occupé par les rois, je veux dire. Non. Oui, la Bastille, ils auraient bien voulu détruire la Bastille, mais ils arrivaient 200 ans trop tard, donc... Mais là le coup c'est juste pratique, quoi. C'est bien pour se protéger. On va se mettre dans un château. On a des murs. On a finalement des sortes de bestioles qui sont pas assez intelligentes pour grimper au mur.
À la différence des deux autres romans dont nous parlons, des autres cycles dont nous parlons, il y a aussi chez toi la volonté, on l'aura compris, de pas du tout se prendre au sérieux et de faire vraiment une grande pochade autour du personnage, de l'archétype du zombie finalement.
Il y a quand même une tentative de réflexion sur le sur l'anarchie, hein, qui fonctionne et qui fonctionne pas dans le roman.
On peut pas trop le dire parce qu'il y a le...
Un drapeau noir, généralement, ça met la puce à l'oreille.
Oui, bien sûr, non, mais...
Il y a clairement une envie de reconstruction du monde avec des principes qui sont pas ceux de l'économie de marché ni du capitalisme, et ce qui pose évidemment des problèmes parce qu'il y a d'autres survivants, et les autres survivants veulent pas forcément la même chose que les punks. En fait, c'est un peu laisser les clés de la ville à une bande de punk. Voilà.
Et vous verrez que le final repose sur un dilemme cornélien.
Biblique, puisqu'on parle d'apocalypse, il fallait mettre un peu de Bible dedans.
Ouais. Très bien, bien vendu. Allez, de Baudard, le cycle, là nous avons deux tomes pour le moment en français, il se poursuit
Oui, tout à fait, donc il va y avoir un troisième tome, donc en fait c'est un tome par, enfin chaque tome est focalisé sur une maison en fait, donc le premier était focalisé sur la maison Flash d'Argent, donc qui était sur l'île de la Cité, le deuxième donc sur la maison Aubépine qui est donc dans le bas du village d'Auteuil, enfin du quartier d'Auteuil vu que le temps qu'on soit en 1980, dans 1890, ça avait bien grandi par rapport au village originel. Et donc le troisième tome se focalise sur la maison Épervier, elle qui est dans le 15e arrondissement, dans le quartier de Grenelle. Donc, bon, au début, j'ai choisi le quartier de Grenelle parce que je trouvais ça plutôt sympa et j'avais besoin d'un endroit qui ait un certain nombre de propriétés géographiques, on va dire, pour l'intrigue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des bouts d'histoire absolument fascinants. Si vous regardez la carte de Grenelle, vous verrez que toutes les rues se coupent à angle droit, quasiment. Et en fait, c'est parce que le type qui a construit Grenelle, c'était un type qui a racheté l'ensemble de la parcelle et qui a décidé de construire cette espèce de vision, de sa vision dans les années 1830 de le quartier idéal pour la bourgeoisie, la petite bourgeoisie qui était à l'époque en plein ascendant, et donc qui a dit bon bah il devrait y avoir tant de maisons, il devrait y avoir un marché, il devrait y avoir ça, il devrait y avoir ça, et donc vraiment un truc point par point. Puis après il a tracé les lignes comme ça avec bon bah on va faire des rues comme ça. Ok. Et en fait donc les rues sont restées et il y a quelques diagonales qui passent parce que il avait aussi estimé que il fallait qu'il y ait des diagonales pour relier à Paris à l'époque parce que c'était 1830 et donc c'était le, enfin, c'était pas la campagne, mais c'était la banlieue parisienne quoi, à cette époque-là. Et donc la population a genre été multipliée par 10 ou par 100 dans les 30 ou 40 années qui ont suivi. Il y a les usines qui sont venues s'installer le long de la Seine, en fait, le long du port de Javel et du port de Grenelle. Et ils avaient aussi à leur charge de maintenir le pont de Grenelle, qui s'est écroulé. Donc ils ont dû reconstruire en catastrophe pour prouver donc la ville de Paris pareil qui était aussi en train de se construire avec ses propres structures que quand même ils géraient bien le truc quoi, tout était sous contrôle et qu'il n'y avait aucun problème. Donc c'est un quartier où l'histoire est assez fascinante. Alors après je sais pas qu'est-ce que je vais réussir à caser dans le roman, mais j'ai trouvé que c'était marrant.
Alors ça ce sont les quartiers occupés par les maisons. Ah pardon.
Moi je voudrais poser une question.
Mais je t'en prie.
Parce que comme tu écris en anglais. Je suppose que tu t'adresses à un public anglo-saxon qui ne connaît pas forcément Paris. Et je voulais savoir comment c'était perçu, si c'était perçu comme de l'exotisme ou comme un truc... Enfin voilà, c'est ça.
Il va me piquer ma place en plus.
Alors globalement, il y a beaucoup de gens qui trouvent que je ne fais pas assez de tourisme. Parce que le parti pris que j'ai pris quand j'ai écrit ces livres, c'est bah, écoutez, moi j'habite là, je ne vois pas pourquoi je devrais fournir trois paragraphes d'explication pour à quoi ressemblent les grands magasins, à quoi ressemble Notre-Dame. Donc bon, je donne de la description quand même, parce qu'on ne va pas faire un truc devant une feuille blanche. Mais mon rôle dans la vie, ce n'est pas de faire guide touristique pour des gens qui ne sont jamais allés à Paris. Mon rôle, c'est j'habite à Paris, j'ai envie d'écrire un livre qui se passe à Paris, et donc pourquoi pas. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des attentes qui étaient très, très différentes. Et donc j'ai beaucoup de gens qui me disent « mais ça pourrait se passer n'importe où, finalement, l'ambiance n'est pas particulièrement parisienne. » Et au début, j'étais un peu soufflée parce que pour le coup, c'est très dépendant de la géographie de Paris, de l'histoire de Paris, des bâtiments, etc. Donc je ne voyais pas pourquoi tu aurais pu le mettre n'importe où. Et après coup, je me suis rendu compte que c'est ça qu'ils voulaient. En fait, ils voulaient la description, quelque part, le côté un peu délibérément exotique.
Vous voulez voir des gens avec des bérets, des baguettes sous le bras?
Ouais, quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'ils... Et puis, en fantasy aussi, il y a quand même tout un pan de fantasy qui est, on va dire, très un peu travelogue quelque part, quoi. Très, on va vous montrer le monde. Bon, il y a l'intrigue aussi qui porte, mais on s'arrête aussi pas mal pour voir certaines choses, certaines structures sociales, certains sorts magiques, etc. Et c'est un choix qui est tout à fait valable. Après, c'est vraiment pas le genre de roman que moi je voulais écrire. Donc
D'autant que si on est beaucoup, et évidemment logiquement, sur les territoires des maisons, il arrive qu'on aille un petit peu de temps en temps sur d'autres quartiers de Paris. Hein, et des quartiers qu'on dirait aujourd'hui plus populaire, parce que oui. Là, on est plutôt, les maisons ont plutôt choisi les quartiers un peu chics quand même pour s'installer.
Bah, c'était un peu délibéré quand même. Après, j'ai aussi repris donc pas mal l'évolution du milieu ouvrier en France. C'est pareil, hein, il y a toute une avec les rénovations d'Haussmann et tout ça, il y a tout un parti pris délibéré en fait de pousser les ouvriers, on va dire ce qu'ils perçoivent comme étant les petites gens et les gens de peu d'importance hors de Paris, là où globalement ils vont pas faire chier, de créer
cette fameuse banlieue
dont on parle tant maintenant. Ouais, il y a tout un projet d'urbanisme qui est très clair de on va s'arranger pour que d'une façon ou d'une autre, leur mettre une pression, qu'ils soient monnaie financière ou autre, pour qu'ils partent. Et donc c'est comme ça que vous arrivez, dans les années 1860-1870, à la marée de gens qui viennent à pied, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer autre chose, depuis les banlieues jusque dans Paris où ils travaillent. Et vous avez des marchés qui s'installent, vraiment des marchés aux journaliers, des marchés aux ouvriers, des choses comme ça.
Et là, dans le cadre du cycle, ces quartiers, justement, ils sont totalement méprisés, finalement, par les grandes maisons.
Oui, oui. C'est des quartiers donc, de gens qui sont perçus comme n'ayant aucun pouvoir, de gens qui n'ont pas accès aux ressources dans un âge quand même post-apocalyptique où c'est quand même vital d'avoir accès à tout ce qui est, on va dire, logistique d'approvisionnement de nourriture qui sont contrôlés entièrement par les maisons, même ne serait-ce que de l'eau propre, quoi, qui aussi est très difficile à avoir. Et donc, c'est des gens qui vivotent dans une misère qui... Finalement, j'ai à peine exagéré par rapport à la misère ouvrière de certains quartiers du 19e siècle. C'est pareil, j'ai beaucoup de gens qui me disent en commentaire que c'est absolument horrible. Et en fait, j'ai réduit par rapport à ça. Enfin, quand vous lisez franchement, le 19e siècle, c'est un roman d'horreur à soi tout seul. Il n'y a pas besoin d'exagérer, ça fait ça tout seul. Et c'est vrai qu'on a cette image, c'est la belle époque, hein, c'est le terme dit tout, mais... l'envers du décor est quand même très très sale. Et donc un des thèmes du roman que je voulais explorer aussi, c'est que sous-estimez pas les gens, quoi. C'est un, ils sont pas stupides, et puis deux, ils pourront bien vous surprendre. C'est pas parce qu'ils ont pas accès au pouvoir magique ou à d'autres ressources que ils sont quand même pas capables de vous infliger des déroutés monumentales comme ça, quoi. Et c'est quelque part on revient aussi à cette idée de la chute dans le roman, de la chute des anges, de la chute de la maison au flat d'argent, hein, littéralement. Un des talons d'Achille monumentaux des maisons, c'est quand même l'arrogance et la croyance qu'elles savent tout. Que moi, je déteste personnellement, donc elles l'ont cherché quelque part. Hein.
Pauline, on a parlé de ce... Paris nouveau presque que vous construisez, alors, même si sur la couverture on voit encore quelques monuments qu'on reconnaît, dont la tour Eiffel. Est-ce qu'il reste des vestiges de Paris tel que nous le connaissons encore dans votre univers ?
Oui, il en reste. Par exemple, j'évoque la fontaine Stravinsky qui est à côté de Beaubourg avec l'église Saint-Merry. Bon, il y a des hologrammes sur l'église, mais sur les façades de l'église, mais couche antérieure existe encore. Donc j'imagine un Paris qui n'a pas totalement changé, mais qui a évolué, et qui a évolué pas forcément dans le bon sens d'ailleurs, puisque avec l'abandon de l'État, il y a aussi l'abandon d'une politique culturelle et de conservation du patrimoine, etc., qui fait que c'est un peu anarchique.
Mais finalement, on est... je vais jouer un peu les avocats du diable. On est finalement dans une évolution qui est assez logique, d'une certaine manière. Et tout ce que vient de nous raconter Aliette, ça va aussi dans ce sens-là. L'exemple, en plus, que vous prenez de l'église Saint-Merry et de cet endroit, on est au cœur de Paris. Alors vraiment, on est dans le cœur historique de la capitale. Et il suffit évidemment de regarder un petit peu comment elle a changé. Le fait même justement de ce contraste particulier de Beaubourg d'un côté et de Saint-Merry de l'autre est déjà en soi aujourd'hui la marque des évolutions.
Mais je n'ai fait que forcer un peu le trait, en fait. C'est vraiment ce que m'inspire Paris, tout, que ce soit l'exclusion sociale. Alors, j'invente aussi un périph' qui est fermé à la circulation et que les Parisiens ne traversent plus du tout et qui, du côté parisien, en fait, est caché par des miroirs. Donc, on a vraiment des Parisiens nantis, en fait, qui vivent à l'intérieur de leur bulle. Tout ça, évidemment, c'est... ça a des racines dans la réalité sociale qu'on peut observer aujourd'hui.
Voilà trois visions de Paris assez différentes les unes des autres, trois genres différents également entre le fantastique, la fantasy et la science-fiction. Voilà, si vous avez envie d'aller vous balader dans la capitale via la lecture, n'hésitez pas à aller retrouver sous la bulle du livre nos trois auteurs et puis pourquoi pas à poursuivre la conversation et à faire dédicacer les ouvrages qu'ils vous ont présentés au cours de cette table ronde. Merci beaucoup.